Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce système universel de retraite va vivre très longtemps. Le Premier ministre Édouard Philippe se dit confiant ce matin dans les pages de La Croix dans l'aboutissement de sa réforme, alors que les projets de loi sont présentés en Conseil des ministres ce matin.
Mais les opposants au texte continuent de défiler cette nuit à la lueur de flambeaux, aujourd'hui pour une 7e mobilisation interprofessionnelle. Nous irons d'ailleurs à Marseille dans un instant.
À suivre également le bilan de la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient et puis des villes en Chine coupées du monde, elles sont de plus en plus nombreuses pour éviter la propagation du mystérieux coronavirus. Pas encore d'urgence sanitaire de portée mondiale, c'est ce qu'a estimé hier soir l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Et la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, faut-il interdire les pesticides? SDHI, on posera la question à Pierre Rustin, il est biochimiste et directeur de recherche au CNRS.
Du noir ou des flambeaux pour s'opposer à la réforme des retraites présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. La CGT a choisi le noir et des coupures électriques en Loire-Atlantique par exemple ou en Île-de-France avec 3 incinérateurs de déchets mis à l'arrêt depuis hier soir. Et puis pour entretenir la flamme de la contestation, c'est à la lueur de flambeaux, de lampions que des milliers de personnes ont défilé hier soir à Paris, Strasbourg, Tours, Niort, Dijon, Limoges, Tulle, Albi mais aussi à Marseille. Manifestation phocéenne suivie par Sarah Tucherer.
Dans la nuit noire, des dizaines de lampions s'élèvent. L'un d'entre eux vient de s'échapper des mains de Sylvie, retraitée.
C'est tous les salariés qui sont en lutte pour la suppression de ce projet de loi destructeur de notre société.
Un lampion égale
une lueur d'espoir.
Député de Marseille, Jean-Luc Mélenchon apprécie le spectacle.
C'est magnifique. Ça montre qu'ils sont bien dans le rythme d'invention de formes qui captent le regard, qui renouvellent l'action, qui la prolongent parce que la grève, c'est dur et les gens ont beaucoup souffert.
Personne ici ne parle de fin du mouvement. Au contraire, il s'amplifie, dit Frédéric de la Fédération de la Métallurgie.
Certaines professions sont entrées dans l'action depuis maintenant un certain temps. Les cheminots, la RATP, l'Opéra de Paris, etc. etc. Il y a d'autres secteurs d'activité qui sont aussi en grève et d'autres qui viennent de rentrer, que ce soit de la métallurgie, de l'agroalimentaire, du commerce, des services publics.
Avec ses collègues Docker, Mathieu s'est mobilisé dès décembre pour sauver un statut qui permet à la profession de partir à la retraite un peu plus tôt que la moyenne. Il n'a pas l'intention de s'arrêter.
Ça reste quand même un métier dur. On a 10 ans d'espérance de vie en moins que la moyenne française. On le fait parce qu'on est obligé, parce qu'à un moment donné, il faut défendre le beefsteak et c'est comme ça.
Depuis début janvier, le port de Marseille est entièrement bloqué 3 jours par semaine. Le mouvement est d'ores et déjà reconduit la semaine prochaine.
Ce vendredi, déjà 7e journée de mobilisation interprofessionnelle. Insuffisant pour faire vaciller l'exécutif qui s'en tient à son calendrier. Au 51e jour de contestation contre la réforme, le Premier ministre Édouard Philippe le répète ce matin dans un long entretien accordé au journal La Croix. Il veut réformer le système des retraites pour qu'il soit plus juste, plus solide et plus adapté aux transformations du monde du travail de demain. Alors en parallèle des deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire, visant à créer ce système universel de retraite par points, et en parallèle du calendrier serré à l'Assemblée avec un premier vote en mars avant la trêve imposée par les municipalités. En parallèle donc, la conférence de financement entre partenaires sociaux souhaitée par la CFDT sera lancée le 30 janvier prochain. C'est ce qu'annonce Édouard Philippe au journal La Croix. Matignon table sur un horizon social finalement dégagé, Stéphane Robert.
Édouard Philippe est plutôt content de lui, concède un de ses proches. En tout cas, il est très heureux de là où il a emmené le deal sur la réforme des retraites. De fait, il n'a pas lâché grand-chose, le Premier ministre. Hormis quelques concessions à certains corps de métier, le système universel devrait bel et bien voir le jour. Avec la conférence de financement qui débutera le 30 janvier prochain, il a gravé dans le marbre le fait qu'on trouvera un moyen pour garantir son équilibre financier. Les partenaires sociaux, hormis les syndicats contestataires, se sont engagés à faire des propositions d'ici fin avril. Et si aucun accord n'est trouvé, Édouard Philippe pourra mettre en œuvre ce qu'il a pour le moment retiré, à savoir l'âge pivot. Bref, concernant cette réforme, il va faire bon an mal an ce qu'il avait prévu au départ. Au-delà de la réforme sur le plan politique, Édouard Philippe et Emmanuel Macron s'en sortent relativement bien, à court terme en tout cas. Malgré un conflit très long et qui n'est pas encore complètement terminé, le chef de l'État a pu montrer que son gouvernement était encore en capacité de réformer le pays. Et puis, il a consolidé son socle de soutien d'environ 30% dans l'opinion. De ce côté-là, le président comme son Premier ministre n'ont rien perdu. Ils ont même renforcé l'image d'un pouvoir qui reste ferme malgré les difficultés. Il pourrait en revanche y avoir des conséquences à moyen terme, notamment en 2022. Emmanuel Macron peut craindre que ce conflit laisse des traces, les Français ayant apparemment majoritairement estimé jusqu'au bout légitime la contestation contre cette réforme des retraites.
Et la droite et la gauche comptent bien faire entendre dès le mois prochain cette contestation à l'Assemblée nationale. La réforme des retraites sera discutée en hémicycle à partir du 17 février, avec une adoption prévue pour l'été. Problème pour Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Le financement n'est pas prévu par le texte soumis certes aux partenaires sociaux, mais pas aux députés. Et c'est, pour Damien Abad, inadmissible.
On n'a pas l'intention d'accepter un débat parlementaire sans le volet financement. Pour une raison très simple, c'est que les retraites, c'est 320 milliards d'euros, c'est 15% du produit intérieur brut, c'est 30% du montant des impôts des Français. Est-ce que franchement, c'est sérieux d'examiner un texte devant la représentation nationale sans son volet financement? C'est pas acceptable, c'est pas sérieux. On va se mobiliser, on va mener une bataille parlementaire très rude, on va faire un certain nombre d'actions qui montreront notre désapprobation, l'irrespect de l'Assemblée nationale en tant qu'institution. On ne peut pas comme ça s'essuyer les pieds sur la démocratie parce que le roi a parlé. Tout ceci, ça crée de la tension dans notre pays. Et si le débat, on ne l'a pas à l'Assemblée nationale de manière respectueuse, alors on l'aura malheureusement encore une fois dans la rue. Et alors ce sont encore une fois les Français qui seront pris en otage parce qu'on aura des grèves à répétition ou des tensions sociales.
Le financement est censé être le fruit de discussions entre partenaires sociaux.
Oui, mais ça fait 2 ans qu'on discute. À ce moment-là, il fallait préparer cette conférence de financement avant et attendre les conclusions de la conférence de financement pour les intégrer dans le projet de loi. Moi, je ne remets pas en cause l'idée que les partenaires sociaux se saisissent de la question du financement. Ça, c'est une bonne idée. Ce que nous contestons simplement, c'est que cette question du financement, on la saisisse une fois le vote fait à l'Assemblée nationale. C'est ça qui n'est pas acceptable. Nous disons, ok, vous voulez faire une conférence de financement, faites-la, attendons les conclusions. Et quand on aura les conclusions, à ce moment-là, on examinera le projet de loi à l'Assemblée nationale.
Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, dossier signé Stéphane Robert. La réforme des retraites, dossier toujours sensible, on l'entendait, en cette 7e journée de mobilisation interprofessionnelle, 40% des conducteurs de la SNCF devraient être en grève, davantage que la semaine dernière, 7 TER sur 10 prévus par la direction, trafic quasi normal pour les TGV. À la RATP, le trafic est encore ralenti, l'UNSA, premier syndicat, évoque environ 60% de conducteurs grévistes aujourd'hui sur les métros et RER, en ce jour, je le rappelle, de présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres. En Conseil des ministres encore, la révocation officielle de Ségolène Royal. L'ex-ministre de l'Environnement ne sera plus ambassadrice des pôles pour ne pas avoir respecté son devoir de réserve face à l'exécutif. Ségolène Royal, par ailleurs visée par une enquête préliminaire du parquet national financier pour l'utilisation des moyens associés à sa fonction. Ambassadeur thématique, une fonction occupée par des diplomates mais aussi des personnalités issues de la société civile ou du monde politique. 21 ambassadeurs thématiques aujourd'hui nommés, missionnés et rétribués par l'exécutif dans des conditions parfois opaques. C'est un dossier à retrouver sur franceculture.fr.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. La Chine continue d'isoler plusieurs foyers du mystérieux coronavirus.
Avant le long congé du nouvel an chinois, près d'une dizaine de villes sont désormais bouclées ce matin à l'épicentre. Centre de l'épidémie virale, partie de Wuhan, cette ville de 11 millions d'habitants dans le centre de la Chine. Épidémie qui a fait, selon un dernier bilan, 25 morts sur un total de 830 personnes contaminées. Il n'y a pas d'urgence sanitaire de portée mondiale, a estimé hier soir l'OMS lors d'une réunion suivie à Genève par Jérémy Lanche.
Les experts ont beau avoir demandé 24 heures de réflexion supplémentaire avant de se prononcer, leur avis n'a pas beaucoup changé. Faute d'accord, c'est la prudence qui l'emportait. Le français Didier Houssin représente le comité d'urgence de l'OMS.
Plusieurs membres sont convaincus qu'il faut déclarer une urgence sanitaire de portée mondiale à cause de l'augmentation du nombre de personnes contaminées, mais aussi à cause de la gravité de la maladie. À l'inverse, d'autres membres du comité estiment qu'il est encore trop tôt, notamment parce que le nombre de cas enregistrés à l'étranger est faible.
La mise en quarantaine de plusieurs villes en Chine a, semble-t-il, fait pencher la balance. L'OMS estime que cela pourrait contribuer à endiguer l'épidémie, une épidémie qui concerne d'abord la Chine, même si cela pourrait rapidement changer, prévient le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus.
Le comité est divisé quant à la décision de déclarer une urgence sanitaire mondiale ou non. Mais ne vous y trompez pas, le coronavirus est une urgence en Chine. Il ne l'est pas encore dans le reste du monde, mais ça pourrait très bien le devenir.
L'agence recommande à la Chine de procéder à des contrôles des voyageurs dans les gares, les ports et les aéroports, et elle conseille à tous les autres pays de se tenir prêts au cas où un malade arriverait sur leur territoire.
Jérémy Lanche à Genève pour France Culture. Emmanuel Macron est rentré en France hier soir après 48 heures à Jérusalem. Le président français a assisté hier aux cérémonies commémorant la Shoah à Yad Vashem. Il a également rencontré le président israélien Rivlin, le premier ministre Benjamin Netanyahou et son principal opposant Benny Gantz. Emmanuel Macron qui a fait entendre sa petite musique. Pas question de s'aligner aveuglément sur l'axe entre Israël et les États-Unis. Frédéric Mettezo.
Il y a eu cette altercation à l'église Sainte-Anne, bien sûr, révélatrice mais finalement assez anecdotique par rapport à d'autres prises de distance plus subtiles. Quand Emmanuel Macron définit l'antisionisme, il explique que la critique ou les désaccords avec l'action d'un gouvernement israélien sont possibles, que là, on n'est ni dans l'antisionisme ni dans l'antisémitisme. À Yad Vashem, hier, alors que Benjamin Netanyahou évoque clairement une intervention contre l'Iran et les tyrans de Téhéran, Emmanuel Macron met en garde « Nul n'a le droit de convoquer les morts pour justifier des divisions ou des haines contemporaines ». Le président français a aussi tenu à rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Seuls quelques dirigeants étrangers ont parcouru les quelques kilomètres pour aller en Cisjordanie. Sa déambulation dans les lieux saints avait tout du « en même temps religieux » chez les chrétiens au Saint-Sépulcre, chez les juifs au mur des Lamentations, chez les musulmans sur l'esplanade des mosquées, comme il l'a appelé dans un discours, et non pas Mont du Temple.
Frédéric Mettezo à Jérusalem pour France Culture. Alexandre Djouri, bientôt en France, les juges britanniques ont maintenu en appel leur décision d'extrader le protagoniste clé de l'enquête sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Les précisions à Londres d'Antoine Gignot.
C'est un bras de fer qui a duré 2 ans, assigné à résidence après avoir payé une caution de plus d'1 million d'euros. Alexandre Djouri a tenté tous les recours, toutes les attaques possibles pour éviter l'extradition. Il a expliqué que les convocations qu'il avait reçues de la police avaient été envoyées par courrier électronique et pas par la poste. Il a contesté la légitimité du parquet français. Il a saisi la Cour de justice européenne sans succès. Le Royaume-Uni a maintenant légalement 10 jours pour le livrer aux autorités françaises et au juge d'instruction qui pourrait rapidement le mettre en examen. Ils veulent éclaircir ses liens avec Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Lors d'une perquisition à son domicile en 2015, les policiers avaient découvert un relevé d'identité bancaire au nom de l'ancien ministre. Alexandre Djouri va surtout devoir s'expliquer sur les possibles transferts occultes d'argent lors de la vente d'une villa en 2008 au fonds souverain libyen et lors de la vente de plusieurs Airbus à la Libye.
Le temps de ce vendredi 24 janvier, marqué par des pluies encore dans le sud du pays, une vigilance rouge pour crue est maintenue pour la haute vallée de l'Aude, orange pour la vallée centrale. Ce matin, les températures sont comprises entre moins 4 et 1 degré sur la moitié nord de l'Hexagone, comptée de 2 à 11 au sud, Guillaume Hermé.
Merci Catherine Dutu, 7h13 sur France Culture.